Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans votre émission, la Rédac Pop, sur Radio Campus Orléans. Une émission également disponible sur Zotelli, en coproduction avec Zotelli. Merci à Steven à la caméra. Merci à Hassan Kerim qui va m'aider au cours de cette émission à poser des questions à nos invités. Cette émission est consacrée à la journée de la source en ce 29 juin, enregistrée depuis la salle Fernand Pélissère. Une journée organisée pour que les familles qui ont fait l'histoire de la source se retrouvent autour d'archives, de projections de films, d'un studio photo et d'un grand moment de discussion pour se remémorer les années bonheur et la fraternité qui faisaient de la source une grande famille. C'est maintenant une tradition dans mes émissions. Je commence toujours par un petit poème, parce que la poésie, c'est très important dans la vie. Alors, il s'agit d'un poème d'Abdelatif Lahabi, extrait de l'arbre à poème. Amis, où en sommes-nous de nos rêves de jeunesse? Nous voulions surprendre le monde et le monde nous a surpris. Alors, j'aime bien jouer. Je vous propose de jouer à un petit jeu, un jeu que vous connaissez certainement. Il s'agit du puzzle. Voilà, nous allons reconstituer le puzzle collectif. Nous allons recomposer l'histoire à partir des pièces de notre mémoire. Ce sont les pièces du puzzle. Pour jouer à ce jeu, pour recomposer les pièces de ce puzzle, je vous propose de commencer par les contours de ce puzzle, par les coins de ce puzzle et ces souvenirs que vous avez pu laisser dans un coin de votre mémoire. Voilà, on commence cette émission tout de suite avec celles qui sont à l'initiative, qui font partie de ce collectif d'habitants, habitantes et qui sont à l'initiative de cette journée. Bonjour Nadia.
Bonjour.
Bonjour Nadia.
Bonjour Daniel.
Bonjour Fatira.
Bonjour Daniel.
Bonjour Khadija. Bonjour Aziz. Je nomme aussi celles et ceux qui ont contribué. Vous pouvez d'ailleurs m'aider aussi peut-être.
Khadija, Aziz.
Malik. Nejmi, artiste, qui sera avec nous au cours de l'émission. Malik, qui a donc tenu le studio photo et puis aussi un projet Mondaneum Studio.
Tout à fait.
Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. En préparant cette émission, Nadia, tu m'as parlé d'une promesse que tu avais tenue, que tu avais faite à Zora.
Exactement.
Voilà. Tu peux nous en reparler?
Bien sûr. Alors, j'ai rencontré beaucoup d'anciennes amies et d'anciennes camarades de classe au marché du dimanche. Et un jour, c'est vrai, j'ai rencontré une, je ne sais pas si j'ai le droit de citer un nom, la famille Arabi, Farida. Et ça m'a fait beaucoup plaisir parce que je ne l'avais pas revue depuis peut-être 20 ans. Voilà. Et on a parlé de certaines filles qu'on ne revoyait pas forcément. Et je lui ai demandé des nouvelles d'une femme que j'avais toujours aimé revoir et que je n'ai pas réussi à revoir, hein, donc Zora. Et en fait, elle me dit, oui, elle a envie aussi de te voir. Elle cherchait à savoir ce que tu étais devenue. Et en fait, je l'ai regardée. J'ai dit, je te promets, c'est vrai qu'il faut arrêter qu'on se voit comme ça de temps en temps et prendre des nouvelles tous les 3 ans. Je te promets qu'il y aura une journée pour les gens de la source. Voilà, on le fera. Je ne sais pas comment, je n'avais pas encore idée de comment va se dérouler cette journée-là, mais j'ai dit, je te promets qu'il y aura une journée pour les gens de la source. Et voilà, on y sommes.
Une promesse tenue.
C'est ça.
Du coup, une journée pour se retrouver. Alors, Zora, elle est où alors?
Eh bien, malheureusement, elle n'a pas pu venir. Alors, la famille Arabi non plus. Alors, il y a beaucoup de mariages, apparemment. la saison des mariages est lancée. Donc, il y en a certains qui sont aussi partis au pays. Mais c'est dommage, oui. Après, j'ai vu le frère tout à l'heure. Donc, voilà. Et peut-être qu'elles vont arriver.
Alors, une journée, pourquoi faire? Est-ce que tu avais déjà dans l'idée ce qu'on voit là, des photos? Parce qu'une journée pour se retrouver, c'est très bien. Mais une journée pour parler de la mémoire de ce quartier, c'est autre chose. Est-ce que tu avais ça en tête déjà?
Absolument pas. Absolument pas. Moi, j'imaginais une journée à se revoir, partager des souvenirs d'avant et surtout revoir les gens. Voilà, dans ma tête, c'était ça, c'est revoir les gens et voir ce qu'ils sont devenus. Parce que c'est vrai qu'à côté de moi, il y avait ma fille. Elle me dit, ne me dis pas que c'est ta fille. Donc, je me suis dit quand même, il faut quand même qu'on se revoie. Ma fille a 27 ans, donc ça remonte quand même. Mais je n'avais pas du tout imaginé ça comme ça. Alors ça, c'est grâce quand même à tous ceux qui sont là. Hein. Les idées se sont mélangées. Et ça a donné ça aujourd'hui.
Et le projet avec Malik, tu en avais connaissance forcément avant. Et
oui, tout à fait. Ben, en fait, quand j'ai rencontré Malik à travers Fatira, Malik avait déjà en fait commencé avec des photos, des portraits, etc. Et il retraçait l'histoire de la source. Et c'est ça qui était intéressant. Donc on s'est retrouvés dans cette idée de revoir les gens.
Oui, voilà, c'est...
Fatira.
Donc oui, par rapport à la T17, en fait, Malik faisait tout un travail avec le studio Mondéum. Et c'est comme ça, finalement, que c'est cette histoire de la source. On avait très envie de travailler sur un travail de mémoire, de portrait, de famille qui sont là, qui ne sont plus là. Tous ces gens qui ont participé ou contribué à la construction de quelque chose à la source. Donc l'idée, c'était un petit peu ça. Et on a discuté avec des copines et voilà, on avait très envie de partager.
Et toi, ton histoire avec la source, c'est quoi ?
Alors moi, mon histoire, j'ai grandi au 49 Résidence Les Genêts. Mes parents sont venus d'Algérie. Et puis, j'ai grandi à la source, j'ai fait mes études à la source, j'ai fait du sport à la source, j'ai travaillé à la source. Et j'ai plus de lien vraiment à la source, mais j'ai besoin de revenir, j'ai besoin effectivement de revoir mes amis de la source, de revoir des visages, c'est mes racines, donc voilà.
Mais alors moi, je disais que en fait, j'étais invitée un soir par Fatira Khadija pour un tour où j'ai rencontré Malik. Et puis là, Malik nous a parlé de son projet. Et puis on s'est lancé dans l'aventure comme ça, Khadija et moi. Et puis au fur et à mesure, on a participé à des réunions. On a essayé de contacter des anciens. Donc des gens comme Aziz, comme José Pinto, Gustino. Et puis comme ça, l'aventure a commencé. Mais très belle aventure avec... de belles personnes qu'on a retrouvées.
Même question, ton histoire avec la source.
Alors mon histoire, elle part de mes grands-parents qui sont rapatriés d'Algérie, qui sont arrivés à la source dans les années 64. Mes parents se sont rencontrés via des personnes qui habitaient à la source. Et puis je suis née moi à Bourges. Je suis revenue à la source en 81. Mais pendant que j'étais petite, je venais en vacances chez ma grand-mère. Pendant toutes les années, c'est-à-dire moi je suis née en 69, donc j'ai connu la source pendant toute mon enfance. Et puis après, quand je suis arrivée en 81, la première personne que j'ai rencontrée, c'est Khadija, qui est là-bas, c'est mon amie d'enfance. Et puis on ne s'est pas quitté depuis des années. Et moi, quand je suis partie après habiter à Saint-Cyr-en-Val avec mes parents en 85, mais j'ai toujours gardé un lien avec la source, parce que j'ai travaillé pour l'association Escale, j'étais à la faculté d'Escale. Et voilà quoi. Donc, mais bon, je reste toujours en lien avec des gens comme Fatira, comme Khadija. Donc la source est quand même très importante dans ma vie.
Même question pour Nadia et Malik. Votre histoire avec la source.
J'y vais. Moi, j'ai un peu raconté déjà à la projection, mais mon histoire est liée à mes parents, Solange et Mohamed, qui se sont rencontrés ici. Alors, ma maman est une étudiante qui arrive de Châteauroux. Et qui vient sur le campus, m'a-t-elle raconté récemment, parce qu'on parle beaucoup de la source depuis quelques années, notamment autour du projet, qui vient ici pour voir une copine d'enfance qui s'appelle Marie-Reine. Elle vient pour la voir. Je ne sais pas si à l'époque, Marie-Reine était déjà avec l'homme de sa vie, qui s'appelle Mohamed Roulam, qui est bien connu ici à la source. Et je pense qu'à l'époque, ces Marocains immigrés draguaient sur le campus, ça draguait à mort. Et mon père était un bel homme, je dirais, voilà, un grand Marocain, black.
Il y avait les franchises.
Voilà, il y avait cette salle de danse qui s'appelait les franchises. Alors même mes beaux-parents, en fait, hein, qui sont d'ici, en fait, du Berry, se sont rencontrés aux franchises. Sa salle de danse n'existe plus. Je pense qu'elle était au niveau de Staps, en fait, sur le campus, hein, voilà. Il faudrait qu'on voit maintenant, après, avec Aziz, si on peut trouver des archives, parce que l'idée de ce projet, maintenant, c'est quand même de voir si les images de la source et des archives vont sortir, en fait, aussi des familles. Et puis voilà, donc moi, je suis né à Orléans, après on s'est installé à La Source, ma mère venait travailler chez Posto, où elle courait beaucoup entre La Source, entre un travail à La Source, puis de soir un travail à Auchan, à Saint-Jean-de-la-Ruelle, etc. Et puis mon papa était encore un petit peu dans l'entre-deux, il allait encore un petit peu au Maroc, il s'installait. C'était la belle époque, on a eu la Renault 12, on est parti au Maroc, il y a les premiers retours, j'étais envoyé à 2 ans au Maroc pour mon baptême. Très vite, il y a eu ce lien entre la source et la famille au Maroc. Et après, ce qui me rattache au quartier, moi, c'est beaucoup moins en fait, des attaches, comme vous avez, vous, les filles, avec des familles, qu'un territoire éprouvé, à la fois au sens associatif, aller voir des films, du sport, beaucoup de sport. Je faisais du judo, du foot à SPTT. Mon père était cycliste. C'était le seul noir cycliste arabe au chèque posto. Enfin, voilà. Et on l'appelle Momo. Et puis un territoire assez éprouvé par l'image. C'est ça, très vite, en fait, j'ai des albums de photos qui nous montrent, en fait, dans une façon de vivre entre la source et le Maroc, donc la terrasse hein, que j'évoquais dans le film de la tour, et le quartier avec le parking, la voiture. C'est plutôt un peu ce rythme binaire comme ça, et le sport.
Je crois que tu es trop timide pour parler de... On t'a beaucoup eu au micro avec Daniel. Hein, tu construis ce projet autour de la destruction de la T-17, mais au-delà de tout ce que tu viens de nous dire, je crois que c'est viscéral chez toi de parler de la source. Ça ne vient pas forcément que de la tête, mais du bide, quoi, non ?
Je crois qu'on est tous, on en parlera un petit peu, après tu raconteras aussi ton histoire avec la source, Nadia. Moi, j'apprends en même temps parce que je ne vous connais pas toutes dans vos parcours, mais on est toutes et tous, en fait, ce qui est particulier dans ce projet, et je pense qu'il faut le souligner, c'est que nous ne sommes pas une association et pas encore un collectif. Nous sommes des personnalités, en fait, qui se sont rencontrées par le fait de se retrouver effectivement autour de la Tour 17 et de ce Mondaneum Studio que vous avez cité, qui est un studio photo qui a ouvert dans le cadre de ce projet viscéral que je mène. Mais il a de viscéral l'idée, l'envie, je ne vais pas dire d'en finir, parce que c'est peut-être cette fin peut-être un début de quelque chose, mais d'en découdre avec un débat intérieur quelque part, parce que on s'est tous construits différemment, on a tous aussi dans ces cultures en fait, de l'entre-deux et de la migration, des coups intérieurs. Et en fait, on est là pour quelque part réparer. Quelque part, moi, quand je suis venu à la source, quand je suis revenu en tout cas dans ce retour pour faire mon travail d'artiste et alerter les partenaires sociaux et puis et culturels, nous disons, mais cette tour, elle va tomber, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, je veux dire, j'ai quand même des expériences de travaux dans le champ du travail avec des enfants, des écoles. Enfin, au début du GPV, dans les années 2000-2003, on avait quand même, les partenaires publics avaient souci d'envoyer des gens faire un travail autour de la mémoire du quartier. On avait des subventions importantes de l'agglomération pour travailler. Là, on est en 2021, 2022, 2023. La tour tombe, rien. Donc voilà un petit peu ce qui m'a un peu alerté, en tout cas, pour ce retour.
Alors, dans quelques instants, on va avoir le témoignage de Omar, mais avant celui de Omar, celui de Nadia. Est-ce que tu peux nous parler de ton histoire avec la source ?
Alors, donc moi, je suis arrivée à la source à l'âge de 10 ans. Je suis arrivée du Maroc directement. Voilà, mon papa étant un ancien militaire, donc c'était un combattant de l'armée française. Et donc, je suis arrivée à 10 ans, on m'a balancée à Orléans. Voilà. Alors, pour la petite histoire, mon papa n'a pas choisi Orléans, en fait. C'est un autre, l'anecdote, je vais la raconter quand même. Il est tombé malade, donc mon papa était à Bordeaux. C'est un invalide de guerre, mon papa. Et il est tombé malade. Et donc, le transport entre Bordeaux et Paris, il fait un malaise, ils ne se sentent pas très bien. Et il s'arrête à l'hôpital d'Orléans. Et il n'a plus jamais quitté Orléans. Voilà, l'hôpital de la Source. Voilà, et c'est là où tout a commencé avec mes frères et sœurs, ma famille. On a été accueillis vraiment, voilà, nouveaux arrivants. Donc, il y avait heureusement des familles, alors pas forcément marocaines, parce que c'était mélangé. Hein. Il y avait vraiment de tout, des Portugais, des Africains. Enfin, moi, je ne voyais pas la différence. On était tous pareils. On allait à la même école, au même collège, parce que j'ai commencé en troisième. Donc, même collège, etc. Donc, on a grandi dans ce quartier. On a étudié. J'ai fait beaucoup de sport. Moi, j'ai fait beaucoup de hand. Même après avoir eu ma fille, donc j'ai beaucoup joué au hand à la Source, et puis après je l'ai quitté quand je me suis mariée, mais je ne l'ai pas vraiment quitté avec le cœur, parce que mes parents sont encore à la Source, ils ne veulent absolument pas partir de la Source. Et j'ai ma sœur aussi qui est à la Source, mon frère, enfin voilà, donc tous les week-ends je suis à la Source, je n'y habite pas mais j'y suis tout le temps, voilà, et c'est ça mon histoire avec la Source.
Une histoire individuelle qui, on l'a vu enfin, au fur et à mesure que cette émission avance, rejoint la grande histoire, puisque ton père était invalide de guerre et avait combattu pour la France.
Pour la France.
Voilà. Tout à fait. On va voir un autre témoignage, celui de Omar, qui, depuis le public, voilà, peut prendre le micro. Et alors, bonjour.
Bonjour.
Voilà, il faut leur parler bien près du micro. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre histoire, votre arrivée à la Source ? Il marche bien, oui, oui.
Bonsoir. Moi, je suis fils de rapatrié. Donc, nous, on a un passage un peu malheureux et douloureux à la fois. On a quitté l'Algérie les années 60. On est passé par Rivesaltes. Donc, on était dans des camps, parqués. Et dans ce camp-là, à Rivesaltes, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait les Juifs avant. Ensuite, les Espagnols. Et ensuite, les rapatriés d'Algérie. D'accord, on est resté, on a eu la chance de ne pas trop rester là-bas trop longtemps. Mon papa était flic, donc il a connu le préfet de l'époque, qui était Dupuche, et c'est comme ça qu'on a atterri à Orléans. Bon, ensuite, bien sûr, ils avaient monté à l'époque des maisons à l'Herveline, d'où je connais votre grand-père, et je connais votre maman aussi. Et votre papa également. Donc, on a été donc à l'Herveline. On n'est pas resté très, très longtemps. Et on est venu à la Source. Donc, on est venu les années 64, fin 64 à la Source, ou début 65. Je n'ai pas une mémoire bien, bien certaine. Et la Source, c'était le paradis. À l'époque, il n'y avait que des pieds noirs d'Algérie, avec 5 familles algériennes de souche. Voilà. Ensuite, les premiers Français, comme on appelait à l'époque les Patos, sont arrivés à la Source. Et ils avaient une peur bleue. Ils avaient peur. Bon, mais après, ils se sont très bien intégrés. Et puis, il faut dire qu'ils ont été très, très bien reçus également. La Source, c'était une transposition de l'Algérie. Il faut voir qu'à l'époque, à la Source, c'était la Kémia, c'était les brochettes, c'était des soirées et des journées de poissons. Et après, ils ont fait la création du club, le RCO. Donc, le club a été créé par nos parents. Nous, à l'époque, étant enfants, on a participé ardemment au terrain, parce qu'on ramassait tous les jours des pierres, où il y a l'ancien hôpital. Non. Et tout le reste, c'était que des bois. On arrivait par une seule route, il n'y en avait pas 36, il n'y en avait qu'une, et qui tombait à Beauchamp. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils ont rayé Beauchamp de la carte. Ça, c'est un peu, je trouve que c'est la mémoire vive de la Source. Donc voilà, j'y ai vécu toute mon enfance.
Alors, à partir de quelle année, justement, vous vous souvenez ? Vous êtes arrivé en quelle année ?
64 à peu près. Donc, on est arrivé très jeune. Hein, donc, mais à la Source, on parlait quoi ? On parlait espagnol.
très peu français et arabe. Voilà. Les Portugais sont arrivés bien après. C'est quand, à l'époque, bon, il commençait à avoir le boom économique. Il y avait beaucoup d'Algériens qui travaillaient sur les chantiers et ils ont trouvé une main-d'œuvre encore beaucoup plus exploitable et exploitée qui fut les Portugais. Voilà, donc c'est un peu l'image. Et ensuite, bien sûr, ils ont ramené une main-d'œuvre marocaine avec des contrats. Donc c'est pareil, c'est des gens qui ont été très, très, très exploités. Ils bossaient des heures pas possibles. Ils n'étaient pas payés en heures sup, du fait qu'ils avaient des contrats. Donc, s'ils se rebiffaient, ils n'avaient plus droit au contrat. Et en même temps, ils leur louaient des granges à prix d'or. Voilà comment s'est construite la source. Un peu. Et vers les années 81, bon, c'est là où il y a eu le grand boom d'arrivée des Marocains du Maroc. Depuis l'élection de Mitterrand. Et avant, ils étaient tous quasiment sous contrat. Quoi.
Voilà. Vous continuez à rencontrer des amis de votre enfance, de votre jeunesse
Malheureusement, très peu. J'ai une voisine à ma droite qui est là. Il y a son mari également. Mais malheureusement, on est tous éparpillés. Mais ce que vous disiez à juste titre, je ne quitte pas la source, malgré que j'y habite pas. J'habite à la Marolles-en-Sologne, mais tous les jours, je suis à la source.
Et si je vous demandais en un mot ou en quelques mots de décrire ce temps-là, ce temps de votre enfance, bonheur,
je sais pas. Ah bah oui. Ah, ça a été le bonheur le plus absolu. Parce que tout le monde se connaissait. Tout le monde se connaissait. Et tout le monde, tous les habitants de la source pouvaient réprimander n'importe quel enfant. C'était quelque chose de superbe. Voilà. Donc la source, l'hôpital, on l'a vu faire se construire. Boualem, moi, je l'ai connu quand il était étudiant. Donc ça ne remonte pas hier. Donc voilà. Donc moi, j'ai travaillé après. Je suis parti. J'ai travaillé à la préfecture d'Orléans après mes études. Ensuite, j'en avais marre un peu de la fonction publique. J'ai quitté. Je suis rentré dans le secteur privé. Et j'ai réintégré la fonction publique au conseil général de Châteauroux. Et j'étais en tant que chef de service là-bas. Voilà. Donc, votre maman étant de Châteauroux, j'ai travaillé pendant 13 ans. Voilà. Voilà un peu le...
Et qu'est-ce que vous venez faire, donc, tous les jours à la source, puisque vous habitez à la Marolles en Sologne? Pourquoi vous revenez?
Écoutez, pour moi, c'est un oxygène. J'ai besoin de la source. Ça, c'est le premier point. Mmh. Le second point, il y a une mosquée maintenant. Ce qui est quelque chose de merveilleux, inimaginable à l'époque. Donc c'est quelque chose de très très bien. La mosquée a été construite non pas par une ethnie ou un pays en soi, c'est tous les musulmans qui ont participé à la construction de cette mosquée, mais bien sûr, on connaît bien que ce soit le Maroc ou l'Algérie et que sais-je encore, c'est un moyen de pression pour que ce soit pour les Algériens ou pour les Marocains. Et puis les consulats, ils ont la même mise dessus. Voilà. Ce qui est un peu fort dommage pour moi.
Voilà. Fatira et Nadia, ce retour à la source, c'est important parce que vous le disiez également, c'est important à quel niveau de revenir à la source. C'est vital de revenir à la source?
C'est pas vital, mais... non, c'est pas vital. Tu vois, Nadia.
Moi, c'est pas vital.
Mais très important.
Très important, oui.
De quelle façon?
Voir
la famille, voir. Revoir, je sais pas, des lieux, des lieux de souvenirs ou pas.
Bien sûr.
C'est ça?
Oui, tout à fait. Des lieux de souvenirs. Souvent, je retourne au 49. J'ai tapé à la porte et puis la famille ne m'a pas ouvert, peut-être par. Parce qu'ils sont pudiques. Oui, bien sûr, besoin de ce retour aux sources. Il est nécessaire pour moi, c'est comme mon oxygène. Voilà, c'est pareil.
Alors, moi, je ne vais pas dire que je reviens tout le temps, mais je reviens de temps en temps, parce que quelquefois, je vais avec Khadija voir sa maman. Mais en fait, la source a beaucoup changé pour moi. J'ai une nostalgie de la source que j'ai connue quand j'étais adolescente. Et je trouve que en fait, le fait qu'il y ait des endroits qui ont été abattus, des changements au niveau des constructions, des ponts qui ont été enlevés, ben moi, ça, pour moi, c'est un crève-cœur, en fait. Et notamment, comme disait le monsieur tout à l'heure, le Beauchamp, qui n'existe plus. La dernière fois, je suis venue là-bas et ça m'a vraiment... En fait, ça m'a fait trop mal au cœur. Et de voir aussi que mon collège, Alain Fournier, n'existait plus. Et en fait, quand j'étais partie me promener là-bas, je me disais, mais j'ai plus de repères. J'arrive pas du tout à me situer et à me rappeler où était mon collège, où était le quartier. Donc, en fait, ça a été quand même un crève-cœur, en fait. Donc, j'ai du mal. Maintenant, la source, je vais revenir, mais j'ai plus le même... Je vais pas dire amour, mais je veux dire que... Je ne me retrouve plus, en fait. Mais c'est vraiment... Et je trouve ça dommage, en fait, parce que...
Moi, c'est presque vital. Alors, moi, c'est les racines, bien évidemment. Comme je vous ai expliqué, mes parents étant toujours là, en pointe tous les week-ends. C'est obligatoire. Donc, il faut venir voir les parents, la famille. Voilà. Donc, c'est très important. Et en plus... J'intègre aussi mes enfants qui n'ont pas forcément connu la source et je n'arrête pas, alors ils me le disent tout le temps, maman tu arrêtes de nous dire que c'était le bon vieux temps, voilà, donc je les invite à venir, j'ai invité ma fille à faire son projet à la source parce que je trouve qu'il n'y a pas mieux comme quartier, symbole de vie commune et de vivre ensemble, mais vraiment. On était entre nous, on se connaissait tous, on ne pratiquait pas les mêmes religions, mais on s'en fichait complètement. Donc, moi, voilà, qu'on priait dans une église ou n'importe où, on était tous heureux, ensemble.
Un mot que j'aime beaucoup, qui s'appelle le vivre ensemble, ce qu'on appelle le bien commun. C'est un petit peu, je pense, que ce qu'on a relevé aussi dans l'idée de cette journée, cette idée comment on pourrait aujourd'hui réinjecter dans la source d'aujourd'hui ce qui fonctionnait avant, cette idée de l'usage du dehors. Mais c'est simple, je veux dire. Moi, on parle de la merguez, par exemple. Quand la tour est tombée, cette odeur de merguez m'a manqué. Non, mais c'est bête. Je me suis dit, mais pourquoi on se retrouve pas tous ensemble pour partager un bout et évacuer un peu notre trauma, parce que la tour, quand même, c'était quand même très violent. Et retrouver cette chaleur, en fait. Et ce que disait aussi quelqu'un qui s'appelle Gustino, qui était venu aux Réunions, il disait, en fait, et Mohamed aussi disait ça dans un des échanges qu'on a eu, on avait la recette pour être heureux. Et quelque part, on nous l'a retirée, cette recette. On savait être heureux. Avant, j'ai envie de dire que peut-être le politique nous en mêle, etc. Et tout, les choses changent. Alors, c'est pas que la merguez, c'est pas que ça. C'est le bien commun, c'est le bien-être commun, c'est se protéger les uns les autres, le rapport... Moi, si on évoque un peu la question de mon retour, si je vous dis que je cherche une protection, ça va être compliqué, mais c'est un parcours artistique et très personnel, d'accord ? Si je cherche une réparation, c'est un renvoi sur la grande histoire, etc. Ça peut déborder sur l'histoire coloniale. Quand vous dites que la source était l'Algérie, mais c'est pas... c'est vrai, c'était presque... c'était pas que des gens qui étaient rapatriés, c'était aussi une partie, en fait, de... Prenez le micro.
On vivait exactement comme en Algérie.
Oui.
Moi, je me rappelle M. Ribès. Je ne sais pas si vous étiez trop jeune, mais votre maman, elle a dû certainement le connaître. M. Ribès, c'est lui qui s'occupait tous les week-ends pour faire les merguez, faire les faillots, faire tout ce qu'ils ont suivi. Mais il demandait de sous à personne. Il allait tout acheter. Et puis, une fois que la fête est terminée, chacun allait payer ce qu'il devait. Et c'était quelque chose... de tout à fait naturel, quoi. Ouais. Mais on a passé des moments à la source, jamais. Mais par contre, il y avait une chose, on allait rarement à Orléans. Pourquoi ? Parce que tout de suite, on était montré du doigt. Tout de suite, on était montré du doigt. Donc, à Orléans, vous voyez rarement les rapatriés d'Algérie, sauf quand ils vont travailler, ou les Harkis, qui habitaient encore à l'Hervéline à cette époque-là. Ils étaient souvent embauchés à la mairie où ils s'occupaient des ordures ménagères et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Mais sinon, on allait rarement à Orléans. Et qu'est-ce qu'on était bien chez nous ici ?
Chez nous ?
Ben oui, chez nous, c'est ça. C'était chez nous. Mmh. Ouais, parfaitement, c'était chez nous.
cette journée, en fait, elle est, pour l'instant, elle est un petit peu unique, même si elle peut être un peu timide, etc. Et tout. C'est une première, en tout cas pour moi, à la source, de voir des gens qui se mobilisent sans étiquette politique ou associative. Hein, comme l'a dit Aziz, je suis là à titre personnel, mais je prête les archives de l'association. Malik vient là, Nadia vient personnellement, etc. etc. Ça, c'est, pour moi, c'est un réveil important à la source et dans la vie des quartiers. Et dans d'autres quartiers, ça bouge déjà plus qu'ici. Mais c'est vrai qu'à la source, c'est un sentiment que je ressens dans le cadre de mon retour. Je trouve que ça ne bouge pas assez, en tout cas, dans ce sens-là. Et je pense que ce n'est pas compliqué pour que les gens se retrouvent déjà. Et la mobilisation autour des archives et de la mémoire est un prétexte déjà pour faire que les gens se retrouvent de toutes les cultures et de toutes les communautés. Je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Et ce n'est pas pour ça qu'on va se retrouver, que les gens vont nous attendre dehors pour nous tabasser, etc. Je pense qu'il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça. Mais moi, la question que je me pose, c'est quelles sont les manières en fait, qui se mettent en place dans les quartiers. Parce que le sentiment, c'est de se dire que peut-être les quartiers ou les banlieues n'auraient pas de mémoire. D'accord. Qu'est-ce qui procède à la commémoration de la mémoire dans les quartiers? Qu'est-ce qui est mis en place, par exemple, à la source, pour se rappeler la question de la mémoire? Est-ce que Mohamed, par exemple, tu as des exemples de choses qui se sont faites, ou est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt passé à la trappe, par exemple, je crois, à Mohamed Roulem?
Non, mais moi, je suis assez content de participer à cette réunion. Et je suis en train de me dire comment je vais apporter ma petite contribution à ce qui est en train de se faire et de se tramer, etc. Cette réunion m'aide un peu à y voir un peu clair. Et moi, je sais une chose, c'est que la source, à une époque, a tout fait. On a vécu des moments de culture et de participation collective énormes, et pendant plus de 20 ans. C'est-à-dire, moi, je suis là depuis 70. Jusqu'en 2002, où il y avait partout des fêtes, partout des réunions, partout des contacts. Avec la régie, on en a organisé pratiquement une tous les ans, avec des populations de tous les coins. Et participaient les gens. Et les gens, ils étaient là. Ils étaient pas... On a fait des méchouis en face de la cité de Bouchon, à côté, où le Parti communiste faisait sa fête à une époque. La résidence des boulots, pratiquement, tous les soirs. C'est-à-dire, et notamment, donc, quand les Chiliens sont arrivés en 73, après le coup d'État, mais les Chiliens, c'est-à-dire, une caractéristique, c'est qu'ils étaient tous des militants. Tous des gens qui... C'est pas des immigrés, c'est pas des gens qui sont venus chercher du boulot, quoi. Ils sont venus parce qu'ils ont fui la dictature. Et quand ils sont venus là, ils se sont énormément intégrés avec tout ce qu'on voulait faire. Mais il y avait des fêtes à Bouchon, mais tous les jours.
Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, moi j'essaye de comprendre depuis le début de l'émission, puisque vous m'avez parlé du bonheur, j'essaye de comprendre cette recette du bonheur. Alors elle est importante, hein, il faut la connaître, parce que vous avez eu le plaisir, enfin le bonheur justement d'être heureux. C'est ce qu'on peut souhaiter à l'enfance et à la jeunesse quand même. Parce qu'un enfant qui n'a jamais connu le bonheur ne comprendra jamais ce qu'il le cherchera toute sa vie. Et c'est vrai que quand on l'a connu, c'est un peu comme un pote, c'est plus facile de retourner vers lui, quoi. Parce que la vie, des fois, il peut y avoir des moments de tristesse. Et c'est vrai que c'est important d'apprendre le bonheur chez les enfants et les jeunes. Je suis content que vous l'ayez appris. En vous écoutant, j'ai compris qu'il y avait de la solidarité, qu'il y avait de l'échange culturel aussi, on l'a entendu avec Omar, hein, cette multiculturalité qui vous a permis, depuis la France, de découvrir le monde sans bouger de la France, sans forcément lire un livre, mais parce que le monde était à votre porte. Alors il venait d'Algérie, d'Auvergne, de l'autre côté de la Loire, du Maroc, du Chili encore. Voilà, donc ça c'est un premier ingrédient, voilà la recette du bonheur et de cette nostalgie peut-être que vous avez par rapport au quartier. Vous étiez en train de nous parler de politique, et je pense que c'était hautement politique, ces grandes parties de merguez que vous faisiez, parce que déjà ça demandait de l'organisation, ça demandait une certaine intendance, hein, voilà, qui c'est qui va chercher les merguez, qui c'est qui les retourne, qui c'est qui les distribue, enfin il y avait cet aspect-là, et ça permettait, je pense, aussi de régler pas mal de problèmes de voisinage, et puis d'entente, tiens, j'ai vu ton fils l'autre fois, ta fille, nanani, on prend des nouvelles. Je pense que c'est le début de la politique, en fait, c'est dans le plus noble exercice de l'art de la politique, c'est ben, ça commence devant sa porte, au pas de sa porte, avec ses voisins et puis même dans la rue. Et alors pourquoi pas justement avec le quartier, puisque c'est ce qui se passait. C'était hautement politique, en fait. Je pense que l'engagement dont vous parliez, parce que quand on se demande pourquoi est-ce que cet engagement il n'est plus là aujourd'hui, je pense que ça ferait du bien à la population, aux enfants, à ces enfants-là, qui sont peut-être tout seuls dans leurs appartements avec leur portable, de pouvoir découvrir autrement leurs voisins, voisines, qu'ils ne connaissent peut-être pas, puisque c'est ça que vous leur souhaitez. Enfin, c'est ce que vous avez connu, justement, beaucoup plus de... j'ai l'impression que vous étiez tout le temps dehors, en fait. c'est peut-être un aspect qu'on peut aborder, justement, pour Nadia, pardon.
Ouais, oui, c'est exactement ça. On vivait dehors avec les autres. Donc, la convivialité, 2000%. Et puis, comme je l'ai dit, je le redis, qu'on s'appelait Fatima, Isabelle ou Fatoumata, en fait, franchement, on ne voyait pas du tout la différence. C'était, comme je dis beaucoup, l'innocence. Mais je pense que c'est des choses qu'on peut retrouver. Alors, le monsieur disait, ça s'est arrêté en 2002. Alors, j'aimerais bien savoir, alors, en dehors de la politique, parce que nos parents ne faisaient pas de politique. Voilà. Et nous, on n'attendait pas que la ville nous invitait à faire ça. Donc, on le faisait, mais instinctivement. Moi, mes parents, quand ils voulaient inviter la Portugaise d'à côté, ils n'allaient pas demander à la mairie si on pouvait mettre une table dehors et manger. Donc, je me dis, c'est peut-être des valeurs que nous avons qu'on peut peut-être remettre à nos enfants. Et j'en suis sûre que c'est des choses qu'on peut retrouver sans pour autant s'occuper de la mairie ou du consulat. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais peut-être que voilà, c'est à nous, à notre échelle, nous, perso, de faire ces efforts-là.
Qui veut prendre le micro ? Allez-y, allez-y. Alors, attendez, hop, voilà.
Alors,
c'est bon.
Aude,
oui.
Que j'ai invité, on se connaît un petit peu.
Oui.
On s'est vu aussi autour de
ouais.
La mémoire, notamment de l'Algérie, mm-hmm. pour toi, une partie de toi. Je te présente vite fait, mais comme ça, après, tu prends la parole, c'est pour le public. On s'est connus plutôt autour de ton travail de sociologue ou de recherche autour de ce que tu appelles les zones de contact, par exemple. Donc,
oui, de médiation voilà. Interculturelle, ouais. Enfin, de mon master que je fais à la fac.
À la fac de la Source.
Ouais. moi, je suis née ici. Alors, après, parce que je suis née en 83, mais ma maman, elle est arrivée, enfin, mes parents sont arrivés en 75, je crois, par le campus. Alors, c'est marrant, du coup, parce que j'ai une relation spéciale avec l'université, du coup, de la Source. Et nous, on a habité tout le temps, en fait. D'ailleurs, j'habite toujours ici. Enfin, je suis partie très longtemps, je suis revenue. Et à Lazare Carnot, donc à la Beca, c'est Lazare Carnot, donc vers la Bolière, dans les immeubles là-bas, devant l'allée des sapins. Et ce que vous disiez, c'est vrai que nous, c'est pareil, en fait. Mais en fait, ça revient tout le temps. C'est revenu dans le film, c'est revenu partout. C'est aussi ce truc d'enfant où on était lâché dehors, mais tout le temps, quoi. Moi, je me souviens qu'on rentrait de l'école, on jetait le sac. On partait et en fait, nos parents, ils ne nous voyaient plus. Et au bout d'un moment, on entendait notre mère qui se mettait à la fenêtre et qui disait « les enfants !» Et d'ailleurs, ils ne prononçaient même pas le prénom, donc comme si on savait à qui on appartenait. on reconnaissait, quoi, c'était instinctif. Et puis on remontait et en fait, ce n'était que ça. Et je pense que le jeu... Moi, je pense, alors évidemment qu'il y a une question politique, mais là j'ai, à travers mon parcours, j'ai eu la chance de revenir... à l'école Poincaré, à Montesquieu, à Voltaire, donc tous les établissements où j'ai fait ma scolarité, et à rencontrer en fait les petits jeunes de maintenant. En fait, il n'y a pas de différence. J'ai l'impression qu'on est pas, enfin, qu'on a le même âge, quoi. C'est ça qui est fou. Et je trouve qu'il y a quelque chose de rapport à l'enfance, du jeu. C'est-à-dire que quand on joue, on se pose pas la question. En fait, nous, on était mélangés, c'est pareil, mais personne se posait la question, quoi. Et les espaces ont été... moi, je vois du côté de chez moi. Alors, c'était magnifique. Après, ils ont fait des jardins et tout. Et vraiment, c'est très beau, ce qu'ils ont fait. Mais moi, je me souviens de quand ils ont enlevé le bac à sable. Pour moi, ça a été terrible. Et là, il y a une photo de bac à sable, d'ailleurs, que je trouve très drôle, en fait, parce que c'est juste un rond avec du sable. Il n'y a pas de... c'est absurde, en fait, mais en même temps, c'est drôle. Et le bac à sable, c'était un endroit où on se reliait, en fait. Tous les gamins, ils venaient de partout. On venait dans le bac à sable. Alors bon, c'était un peu sale, parce qu'il y avait aussi les chats qui passaient, donc forcément, c'était un espèce de truc. Mais quand ils ont enlevé le bac à sable, finalement, les espaces, ils sont devenus alors très beaux. Hein. Il y a des roses et tout, c'est magnifique, hein, je ne dis pas le contraire. Mais on ne peut plus jouer dehors, Alors, on ne peut pas s'asseoir sur... Il y a des panneaux interdits de jouer sur la pelouse ou interdits de... Et finalement, empêcher les enfants de jouer, c'est empêcher les enfants de se contacter, pour moi, à un endroit où il n'y a pas encore de frontières, il n'y a pas encore de barrières parce qu'on est enfant. Donc, si on empêche ça à la source... Après, c'est encore plus difficile, et je pense que les professeurs le voient aussi au fur et à mesure, de relier en fait les enfants entre eux, quoi. Enfin, les ados, parce qu'après ça, l'identité se crée, ça se cristallise, il y a ça se durcit, quoi. Alors qu'avant, non, quand on est petit, on est tout malléable, et puis c'est très bien. Et donc voilà, c'était ça que j'avais...
elle est intéressante, cette approche de l'espace, justement, pour la lier avec la mémoire, et comment, justement, le jeu social, des enfants, passe par le jeu et par du sable. En plus, elle est très évocatrice, cette image du sable. La question que je voudrais vous poser, c'est comment, justement, cette enfance, cette adolescence, cette vie que vous avez eue à la source, ces souvenirs, en fait, ont-ils contribué à la construction de l'identité de l'adulte que vous êtes aujourd'hui ?
Ah bah oui, enfin moi c'est sûr, hein. Enfin après j'ai pas fui la source, c'est que je suis partie faire des études ailleurs, à Tours et puis après à Paris, et puis là je suis revenue, et donc à 36 ans j'ai repris des études, donc là j'ai 40 ans, je suis en train de terminer, et des études finalement de langue et de... Mais c'est marrant, le tropisme, c'est mes études, ça s'appelle vraiment langue et société, parcours médiation interculturelle. Et donc j'étudie les cultures, alors moi j'étudie les points de contact, donc les diasporas, les mouvements, l'idée de frontières et d'abolition de frontières, de liminalité et tout, dans la littérature, dans les arts, alors dans le monde anglophone et hispanophone. Mais en fait, j'ai par là, tout d'un coup, je me suis rendu compte à un moment donné, par mes études, que j'étais revenue à la source et qu'en fait, ce que j'étudiais de l'autre côté du monde, c'était ce que j'ai toujours vécu, en fait, ici. Alors, ma maman vient d'Algérie, d'une famille française et espagnole, rapatriée aussi. Enfin, donc, ces questions de migration, en fait, elles ont toujours été présentes. Je ne me les ai pas posées. Je me les suis posées en allant faire un tour ailleurs et en revenant, et tout d'un coup, en me disant, mais en fait, je tourne autour d'un bac à sable, quoi. Donc, voilà, c'est...
Parfait. Voilà. Vous disiez que vos parents étaient... un lien avec le campus, l'université de la Source.
Oui.
Et vous continuez, vous, à regarder cette université ou pas ? Quelle place ?
Justement, en fait, à la Source. Moi, je n'ai pas fait mes études au départ à la Source. Je suis partie à Tours, après je suis partie à Paris. Et là, en refaisant des études donc, à l'université en fac de lettres, je me suis rendu compte, on en avait beaucoup parlé aussi avec Malik, que... Il y a quelque chose qui me questionne, j'en ai parlé aussi avec des enseignants-chercheurs en géographie aussi, sur la place de cette fac, qui est une plateforme interculturelle immense, avec des gens qui viennent de partout. Campus France, c'est des étudiants qui viennent du monde entier, Erasmus, pareil, qui ont des compétences langagières incroyables en plus, et qui pourtant sont sur le campus, mais il n'y a pas de porosité. Enfin, c'est compliqué de faire venir les étudiants sur le quartier et de faire venir les habitants sur le campus. Alors, l'enseignant-chercheur m'avait dit que ça avait été bâti comme une arche qui, justement, engageait les gens à traverser et à venir. Et on avait noté, en parlant avec des urbanistes aussi, qu'il y avait une sorte de mur de verre à l'Indien, qui ça passait pas, ou alors peu. Je dis pas que ça passe pas du tout, hein, je dis que peut-être que ça passe peu. C'est une question que je me pose, sachant que vraiment, il y a une richesse incroyable. Et la question des étudiants étrangers aussi, me touche particulièrement, et des étudiants qui sont sur le campus et qui sont en chambre universitaire. Parce que pour eux, je trouve qu'il y a une double peine. Ça se trouve, ils ne le vivent pas comme ça. Hein. Là, moi, c'est une extrapolation. Mais je trouve qu'ils sont étudiants, donc ils sont en migration, ils ne sont plus chez eux, ils sont ici. En même temps, ils sont dans une cité universitaire qui n'est pas reconnue comme habitants du quartier de la Source. Donc, il y a un no man's land un peu étrange dans lequel ils sont. alors, peut-être qu'ils ne le vivent pas comme ça. J'imagine qu'eux s'organisent et tout. Hein. Mais voilà, c'est des questions que je me pose.
Il y en a beaucoup qui le vivent,
quoi,
comme ça, oui. Voilà. Mais absolument.
Juste un petit mot, hein. J'aurais plein de choses à dire parce que je suis un vieux sourcien. Pour rebondir sur ce que disait Omar tout à l'heure, Omar il est arrivé en 64-65, il ne se rappelait plus. Moi je me rappelle très bien, hein. Je suis arrivé un peu après, hein. Je suis arrivé en septembre 69, donc j'avais à peine 5 ans, puisque je suis du mois de novembre. Et j'étais ce petit Français que Omar disait qui arrivait. Et à cet âge-là, pour rebondir sur la question de l'enfance, on n'a pas peur. Hein. On se retrouvait avec des voisins. On avait des Lopez, on avait les fils du régisseur LR, les enfants des Espagnols, des Chiliens qui sont arrivés un peu plus tard, des rapatriés d'Algérie, la famille Galouze, tous ces gens-là du quartier qui étaient sur la source. Et on le construisait ensemble, le quartier. Et moi, par rapport à cette question de l'enfance, il y a des paroles d'une des chansons de TFN qui dit et qui illustre très bien ce que je ressens. Hein. On avait l'âge des confitures, des billes et des îlots trésors. Et on allait cueillir les murs en bas dans la ruelle des morts. Quoi. On était des gamins, on s'amusait. Et donc c'est vrai qu'on était tout le temps dehors. Moi, j'avais 5 ans, on était une famille de 8 gamins. On restait pas dans le F5. Hein. Donc dès qu'on rentrait le soir, le cartable, on le posait. Et on grandissait dans le quartier avec tous les voisins, comme je disais, hein, espagnols, portugais, toutes les immigrations successives qui sont arrivées. Et on ne se posait pas de la question de ceux qui priaient Jésus, de ceux qui priaient pas, de ceux qui priaient Allah, ceux qui priaient, comme disait la chanson, hein, certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu, d'autres ne priaient pas. C'était pas grave pour nous, on se posait pas la question et on a grandi ensemble. Et donc, bon, c'est vrai que le temps fait que tous ces gens sont partis un peu partout. Nadia, c'est vrai que je la connais pas forcément, mais je connais c'est très bien son papa avec lequel on avait milité avec Michel Ricoux à l'époque. Et c'est vrai que quand j'ai vu Nadia Mfrikra, tout de suite, ça me parle. Et c'est vrai qu'il y avait à cette époque-là des fêtes qui s'organisaient facilement.
Mon papa qu'on appelait De Gaulle.
Ouais. Et pourquoi on l'appelait De Gaulle?
Alors parce qu'il a fait l'armée, parce que c'était un militaire. Fait l'armée, ouais. Et qui s'habillait tout le temps, apparemment, était, très classe.
Il était très grand aussi.
Très grand.
En tout cas, voilà. c'est l'image que j'ai. Voilà. C'est moi, j'étais petit.
C'est vrai.
Petit,
hein, il fait 1m92, je crois.
Je suis resté petit. Et puis moi, j'ai fait toutes mes études sur la source, hein, le collège Alain Fournier, qui a été rasé. Et c'est vrai que, pour rebondir aussi sur des choses qui ont été dites, à l'époque, il y avait quand même beaucoup plus de mixité. Il n'y avait pas ces barrières qui existent aujourd'hui. Moi, au collège Alain Fournier, j'étais avec des gamins dont les parents habitaient le secteur pavillonnaire. J'étais avec le petit frère, juste à titre d'illustration, hein, j'étais avec le petit frère d'Anne Lauvergeon, qui a fini PDG d'Areva. Il avait 4 ans de plus qu'elle. On a suivi notre parcours. On était invités chez nos copains dans les pavillons. Ils étaient invités chez nous. Et là, aujourd'hui, il y a cette frontière qui existe beaucoup plus. On sent que les gens restent plus recroquevillés sur... Alors c'est vrai, comme disait tout à l'heure, hein, on n'allait pas à Orléans. On restait sur la source. Mais actuellement, on ressent à l'intérieur de la source des murs invisibles qui sont développés. Et c'est comment on lutte contre ces murs que la question nous est tous posée. Hein. Là, maintenant, je suis investi dans le secteur associatif. Je travaille ailleurs. Je suis bénévole à la Confédération nationale du logement. Et on sent qu'il y a, il y a un besoin important. Et on perd pas l'espoir, même si on sait que c'est difficile. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, en septembre, on va organiser une petite fête sur le style fête des voisins devant la nouvelle médiathèque. Et l'objectif, ça serait de 17h à 20h30, 21h, mais de permettre à des gens de se retrouver dans un point un peu central de la source, autour de sandwich merguez, de retrouver un peu cette ambiance de l'enfance.
Est-ce qu'il y aura le bac à sable?
Et le bac à sable. Alors,
J'aimerais bien qu'on continue de faire tourner, parce que c'est la fête, on ne fait pas tourner les serviettes, on fait tourner les micros. Et notamment à Mustapha, c'est bien ça ? On m'a dit que vous appeliez Mustapha. Voilà. Le micro est à vous.
Je suis un des Mustapha qui n'est pas venu aujourd'hui. Donc,
je ne parlais pas de vous.
Je me suis senti un peu visé, mais je plaisante. Oui, sûrement. Déjà, félicitations à ceux qui ont organisé, aux organisateurs. Très belle initiative. Et ça fait chaud au cœur d'avoir cette mémoire. Et c'est important, en fait, parce qu'on ne peut pas comprendre le présent et avoir une vraie place dans le futur ou structurer notre futur si on ne connaît pas notre passé. Et l'idée d'avoir une mémoire à la source, parce que c'est un quartier jeune, on va dire, qui est né dans les années 60, si je ne me trompe pas. Donc, il est important quand on est un quartier jeune, à un moment donné, on a un peu plus de 50 ans, 60 ans, d'avoir des lieux de mémoire. Parce que si on perd la mémoire, on perd le fil du moment présent et on va perdre beaucoup de choses pour le futur. Donc, c'est crucial. L'une des choses un peu tristounette, mais qui est aussi importante, c'est qu'on a eu un cimetière à la source. Voilà. Et c'était un moment fort aussi de mémoire, de se dire qu'il y a des gens qui ont vécu maintenant à la source, qui sont venus d'ailleurs et qui veulent mourir à la source et qui veulent que leur sépulture soit sur la source. Et ça, c'est un message fort, mais c'est aussi un message pour une génération. Et l'autre chose, c'est d'avoir ce lieu de mémoire, ce musée ou cette maison culturelle, ou cette maison où on pourrait retrouver la mémoire des sourciens. C'est important, surtout dans un quartier jeune qui a eu une complexité, c'est sa diversité. Sa diversité, à la fois, c'est une richesse, mais ça a été aussi une complexité. Donc, moi, je suis arrivé dans les années 80 à la source, le petit enfant de la source. Pour moi, en fait, la diversité, ça devait être la norme. Je ne comprenais pas qu'on ne pouvait pas vivre autrement que dans la diversité. C'est qu'à l'âge adulte, où je suis sorti un petit peu d'Orléans, que j'ai compris qu'il y avait beaucoup de gens qui vivaient justement en aucun cas dans la diversité. Et qu'on était là face à un choc, en fait, de personnes qui avaient du mal à accepter et être dans la différence. Et qu'à ce moment-là, justement, tant que vous vivez dans la diversité, en fait, on ne vous rappelle pas vos origines, votre religion ou votre personnalité. Vous êtes une personne parmi les autres qui sont divers. Mais quand vous êtes confronté à des personnes qui ont un problème, eux, avec cette diversité, là, en fait, on veut vous identifier, vous cataloguer, vous mettre des étiquettes, soit politiques, soit religieuses, parce qu'ils ont besoin de marquer, d'avoir ce marqueur de différenciation, en fait, comme un sentiment d'autoprotection pour eux, de personnes qui se cherchent. En fait, quand on vit dans un immeuble où il y a des Maliens, des Portugais, des Français, des Sénégalais, des Marocains, des Algériens, on n'a pas de problème avec sa diversité. On a compris que la diversité, c'était une belle richesse et qu'en fait, au contraire, on partageait plein de belles choses, que ce soit au niveau culinaire ou que ce soit au niveau culturel ou que ce soit au niveau religieux ou que ce soit au niveau philosophique. Voilà, ça fait de l'animation, ça fait un débat et on grandit avec une ouverture d'esprit vraiment que les personnes qui n'ont pas connu la diversité doivent envier. Hein, ils ne pourront jamais comprendre, sauf si quelqu'un commence à voyager un petit peu dans le monde et qui fait une vingtaine de pays, en fait, il pourra revenir avec ce regard-là. Et là, on le voit, on a des Français qui n'ont pas grandi dans la diversité, qui ont fait ces voyages et qui reviennent et qui sont tout le temps plus ouverts et de se dire qu'en fait, il peut y avoir un bonheur ailleurs, il peut y avoir une façon de vivre ailleurs et pas d'être dans cette superposition en fait, d'un regard un petit peu hautain, ou ethnocentré, en se disant, en fait, mon mode de vie, c'est le meilleur des modes de vie et je n'accepte pas qu'il y ait un autre mode de vie. Non, il y a des modes de vie. Celui qui est le mien, c'est le mien. Il m'apporte mon bonheur à moi. Mais je peux très bien comprendre que mon voisin, il a un autre mode de vie et qu'il lui apporte son bonheur. À partir du moment où on se respecte, à partir du moment où on ne se l'impose pas l'un à l'autre, à partir du moment où, en fait, il y a un ensemble de valeurs d'ouverture. Et ça, c'est important, je pense, comme chose. Et là, voilà, il faut cet élan de passage de diversité. Après, la source s'est construite et se construit. À un moment donné, il y a eu ce fameux GPV, donc cette reconstruction de toute la source. Et nous, à un moment donné, en tant que jeunes de la source, on a participé à un projet qui pourrait sembler anodin ou qui peut sembler décalé. C'est qu'à un moment donné, il y avait une demande, puisqu'il y a un ensemble de Maghrébins qui arrivent du Maghreb, d'Afrique, qui sont musulmans. Okay, c'est un fait, ils sont là. Et qui priaient soit dans un local à vélo, ou soit dans une pharmacie désaffectée, ou soit dans un supermarché désaffecté. Et à un moment donné, de s'asseoir avec... on a fait de la politique sans le vouloir. En fait, moi, je dis tout le temps que je suis rentré en politique. Je n'ai jamais été un homme public de politique. Mais j'ai toujours fait de la politique parce qu'en fait, on m'a demandé d'en faire. on m'a demandé de justifier des projets, que ce soit au niveau d'escale, que ce soit au niveau de Femmes Meg à l'époque, des associations maghrébines, que ce soit au niveau théâtral. On vous demande à chaque fois de justifier quel est l'intérêt social pour les gens. Et bien ça, c'est de la politique. Et démontrer qu'à un moment donné, oui, il y a un intérêt. Et oui, il y a une demande. Et oui, il faut l'entendre. Et surtout quand elle vient d'un grand nombre de personnes. Et à un moment donné, bon, on a réussi, on a des petites réussites comme ça, où en fait, on a fait entendre le besoin. Et il y a ces plateformes de rencontres. Maintenant, pourquoi en fait la source se construit sans les sourciens? C'est parce qu'en fait, les sourciens, pour une partie des sourciens, pas tous, ils sont absents. Bon, il y a une double critique, hein. Il y a la critique des sourciens et puis la critique des gens qui ne sont pas de la source. Aujourd'hui, aussi penser la politique avec des personnes de la diversité, c'est pas gagné. Le débat actuel des législatifs le fait dire, mais voilà, même à Orléans, c'est pas gagné. Qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de dire, moi j'ai fait des critiques même à nos politiciens aujourd'hui qui ont mis, voilà, on veut combattre un extrême, on veut faire barrage à l'extrême droite. J'ai dit félicitations, on vous encourage. Maintenant, faites attention à ne pas reproduire la même chose que le Front National. Ils disent, mais non, mais comment? Ben, en fait, vous avez mis que des têtes blanches pour cette France blanche. Et vous estimez qu'il n'y a que ces têtes blanches qui peuvent aujourd'hui aider à travers, regardez les panneaux des législations là, juste dans le Loiret. Et en fait, on reproduit ce qu'on combat. Donc, on ne peut pas reproduire ce qu'on combat et combattre l'idéologie, en fait, en lui donnant de la force. Donc, oui, à un moment donné, c'est d'être dans le regard. C'est encore aujourd'hui. Moi, j'ai 48 ans, j'ai travaillé beaucoup en région parisienne. Et en fait, quand on me disait, ben, t'es d'où? Je disais, ben, d'Orléans. Et on me regarde, non, mais pas d'Orléans. Mais t'es d'où? À Orléans, c'est à 100. Non, mais tu dois être habitué à la chaleur. Ben, à Orléans, tu sais, il y a un degré de différence avec Paris. Et moi, je jouais le jeu, j'appuyais exprès. Voilà. Oui, je suis un Orléanais. Et pour que l'autre, en fait, il vous voit comme un Français orléanais qui a une source en France et pas de... Ah oui, si vous... Parce que moi, me vient pas à la question de poser à mon collègue d'où vient son grand-père ou son arrière-grand-père ou son arrière-arrière-grand-père. C'est, et voilà, il s'appelle Paul, il s'appelle Richard et je le prends en compte qu'il soit tel qu'il est. Mais ce travail-là, un petit peu d'acceptation que de la France, en fait, d'acceptation d'une France diverse... ça a toujours été l'histoire de la France. En fait, il faut qu'on arrive à dépasser l'intention de certains politiciens opportunistes qui font de leur fonds de commerce un petit peu la haine ou bien le rejet de l'autre, parce que c'est plus facile de se faire élire sur certains créneaux. Voilà, c'est très tendance aujourd'hui. C'est comme les films. Aujourd'hui, les séries, plus elles sont violentes, plus elles marchent. Et en politique, c'est la même chose. Plus vous avez un discours violent et plus vous avez de l'audimat. Donc, mais... sans oublier qu'il y a des gens en fait, derrière tout ça. Voilà. Et que maintenant, on a joué pendant 30 ans à ces choses-là et que là, on est aux portes d'un danger qui risque de faire mal à tout le monde.
Moi, ce que je retiens de ce que vous venez de dire, et on reprendra après la pause musicale sur ce thème-là, vous nous parliez justement de cette diversité. Ça me fait penser, alors moi, ça me fait penser à la fois à Édouard Glissant, Frantz Fanon, la réparation de la mémoire justement de ces peuples qui ont été colonisés et qui sont peut-être encore aujourd'hui colonisés dans la mesure où ils ne sont pas considérés, c'est ce que vous disiez, comme des Français. Vous venez d'où? Je suis d'Orléans. Non, mais tu viens d'où? C'est-à-dire que vous avez encore, comme si cette population française avait encore à justifier de sa francitude, je ne sais pas comment on dit, de son origine française, pure souche ou pas, parce qu'on s'apercevra que même les Français, d'ailleurs, quand ils nous parlent, pour certains qui paraîtraient français, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas français quand on est breton ou auvergnat, je ne vais pas chambrer les gens, mais... voilà, qu'est-ce que c'est qu'être français, justement? Enfin bref, et cette question de la réparation de la mémoire, je pense que la culture peut y contribuer. Voilà, notamment, c'est pour ça que je pensais à Édouard Glissant, ce diversalisme dont vous nous parliez, puisqu'il oppose, lui, le diversalisme à l'universalisme, justement, que la France serait quelque chose de un et non pas de divers, quoi. Et je crois que c'est une richesse, justement, de ce quartier de la Source. Donc, je ne sais plus, c'est 84, hein, monsieur Mohamed Roulam, tout à l'heure, qui a parlé de 84 nationalités différentes. C'est une richesse immense. C'est presque la moitié du nombre de pays de la planète.